Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron va commémorer ce samedi le 60e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression menée par la police française. Plusieurs hommages aujourd'hui à la veille du premier anniversaire de l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. La composante islamique de la nation se tient aux côtés de la communauté éducative, nous dira le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher. Entretien également dans votre édition avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Des imams, des membres d'associations musulmanes et des représentants du culte musulman en France se sont rendus ce vendredi devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty. Un lourd bilan après un attentat aujourd'hui en Afghanistan. Des explosions ont frappé une mosquée chiite de la ville de Kandahar. Il y a au moins 33 morts et 73 blessés. Journée de deuil national au Liban au lendemain d'affrontements meurtriers à Beyrouth et des violences en marge d'une manifestation organisée par les mouvements Hezbollah et Hamal. De nombreuses réactions politiques en Tunisie après la formation du gouvernement. Lundi, entretien dans votre journal avec le docteur Khalil Zaouia, ex-ministre président d'État Catholique. La nouvelle ministre marocaine de la Santé, Nabil Armili, renonce à cette mission. Elle choisit de se consacrer à la mégapole de Casablanca, dont elle vient d'être élue maire. Emmanuel Macron va commémorer ce samedi le 60e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression menée par la police française. Une cérémonie est prévue à 15h30 sur le pont de Bezon à Colombes. C'est, souligne l'Élysée, la première fois qu'un président de la République participera à une cérémonie en mémoire des victimes des événements d'octobre 61 à Paris. Une démarche qui, selon la présidence de la République, s'inscrit pleinement dans l'engagement du chef de l'État à commémorer trois dates mémorielles clés recommandées par le rapport Stora et marque une étape historique dans la reconnaissance des faits qui se sont déroulés à cette date. Une commémoration, ajoute l'Élysée, en présence de membres des familles frappées par cette tragédie, de celles et de ceux qui se sont battus pour la reconnaissance de la vérité et de représentants de toutes les mémoires de la guerre d'Algérie. Cela fera demain un an l'assassinat de Samuel Paty. Le professeur d'histoire-géographie était décapité par un jeune Tchétchène à la sortie du collège dans lequel il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. C'était après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Les établissements scolaires de toute la France étaient invités ce vendredi à rendre hommage à Samuel Paty. La composante islamique de la nation se tient aux côtés de la communauté éducative, nous dit le président de la Fondation de l'Islam de France. Entretien avec Raleb Bencher.
Un an après l'assassinat du regretté Samuel Paty, qui a suscité une émotion considérable dans la communauté éducative et la communauté internationale, nationale et même des échos internationaux, l'heure est au recueillement. D'abord, et puis à assurer les professeurs, les enseignants et la communauté éducative de la solidarité de la nation avec toutes ses composantes et la composante islamique faisant partie intégrante de la nation se tient à côté de la communauté éducative à même niveau. D'abord, dire que le respect dû à l'enseignant et aussi à l'acquisition du savoir et quelque chose d'intrinsèque à la tradition religieuse islamique. Le respect dû aux professeurs, aux maîtres, est inscrit dans ces valeurs. La deuxième chose, c'est que plus jamais de telles abominations et de tels crimes ne doivent advenir. Et c'est aussi une leçon pour la cohésion nationale, pour la paix civile, en ces temps de fragmentation, en ces temps de division, plus que jamais, nous appelons à l'union et à la solidarité nationale.
Et de quoi cet assassinat, ce drame est-il le mal, selon vous ?
Si je devais être sévère, je dirais de trois choses réunies. La dégénérescence civilisationnelle, l'indigence intellectuelle et la déshérence culturelle. Les trois réunis font qu'un criminel, agissant soi-disant pour défendre l'honneur du prophète, accable toute une religion et ses adeptes. Donc c'est le mal de cet état de fait et qui continue à tel un séisme terrible avec ses répliques telluriques et ses secousses qui en suivent, à ébranler notre nation qui elle-même est toujours traumatisée, convalescente et résiliente.
Alors il y a ces commémorations un an après, mais les commémorations ne sont pas une réponse. Comment avez-vous apprécié la réponse de l'État suite à cet assassinat?
Il y a deux aspects. D'un côté, on nous dit que l'État est un monstre froid. On ne dîne pas avec l'État, selon la formule de Georges Burdeau. Et d'un autre, l'État est aussi composé, constitué d'hommes et de femmes qui ont leur affect. Et donc la réponse de l'État était dans la fermeté au niveau sécuritaire et aussi avec tout le travail des renseignements généraux. Et je continue et j'adjure aussi les responsables de l'État à poursuivre avec des politiques éducatives et des réponses culturelles. Et nous autres à la Fondation du Sage de France avons la responsabilité de prodiguer ce que nous appelons un discours alternatif, une autre présentation des choses pour diriner, pour fendre, contrecarrer toute l'idéologie dont se prévalait l'assassin.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Ghaleb Bencher, à l'occasion des commémorations liées à l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, je vous propose à présent d'écouter le grand imam de Bordeaux. « Je soutiens les enseignants, la liberté est un dogme », nous dit le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Tout d'abord, je voudrais délivrer un sentiment d'amertume de voir un martyr de l'éducation tombait sous la criminalité et la barbarie tenue au nom d'une religion qui était essentiellement, au départ, originellement, une religion de paix. Je suis doublement peiné de commémorer cet anniversaire malheureux et dramatique et peiné de voir l'islam aujourd'hui impliqué dans des crimes, dans le terrorisme, dans le monde et ici chez nous en France. Cet islam aujourd'hui qui est porté malheureusement par des délinquants et des ignorants. Comment combattre ce cancer qui a fait d'abord des victimes dans le monde musulman avant de frapper des innocents en Occident, notamment en France? Il y a une responsabilité qui incombe à tout le monde, le sécuritaire. Il faut combattre ce terrorisme par tous les moyens techniques, subtils, tous les moyens possibles pour éradiquer cette criminalité qui est tenue au nom de la religion musulmane. Mais en même temps, il faut que les religieux également fassent attention aux discours qui ne sont pas forcément initialement des discours fanatiques, mais qui peuvent inspirer le fanatisme. Nous sommes face à une jeunesse susceptible, vulnérable, influençable par les réseaux sociaux, par des discours qui créent le séparatisme mental, qui coupe le musulman avec son environnement et qui désigne des ennemis comme ça gratuitement. Malheureusement, cet anniversaire nous renvoie à nos responsabilités respectives. Le politique doit assurer son rôle, l'enseignement également. Il doit pas faiblir devant ce terrorisme par l'éducation, par la subtilité de l'enseignement, par la pédagogie qui initie nos enfants à la tolérance et au dialogue. Parce que quand il n'y a pas de langage, il y a la violence. Le jeune, malheureusement, manque de langage. Et je pense que ce terrorisme est également le fruit d'une ignorance, l'ignorance de la religion, mais également l'ignorance de la connaissance universelle. Et je pense que frapper comme ça, tuer un enseignant, c'est très symbolique, parce qu'on s'attaque au cœur même de la République, c'est-à-dire l'école et l'enseignement. Donc tout le monde doit être mobilisé, il ne faut pas que cet anniversaire passe comme ça, on le commémore, et puis comme si rien ne s'est passé. Donc il faut garder vigilance, il faut agir, et peut-être le pire est devant nous, donc il faut être alerte, il faut être très prudent, parce que nous sommes de plus en plus dans des sociétés qui sombrent, qui est tentée par la violence et la crispation.
Samuel Paty a été assassiné après avoir donné un cours sur la liberté d'expression. Il avait montré des caricatures de Mahomet. Des enseignants restent bien entendu traumatisés un an après. Quel message souhaitez-vous adresser à ces enseignants? Comment entendez-vous les encourager à ne pas renoncer justement à leur mission?
En tout cas, personnellement, je les soutiens. Moi-même, j'ai réservé des sermons sur le droit de l'offense. Donc, il faut que les imams soutiennent ces enseignants par la conscientisation des fidèles et des jeunes, et que la liberté, c'est un dogme. Dieu a donné la liberté aux gens de croire ou de ne pas croire. Dieu n'a pas imposé sa foi par un déterminisme historique ou biologique ou éthologique. Il a donné la liberté à l'homme de croire ou de ne pas croire. Il y a des gens qui veulent être plus Dieu que Dieu lui-même, puisque Dieu lui-même a donné la liberté aux gens de croire et de même de l'offenser, puisque dans le Coran, il y a des passages qui rapportent les offenses subies par le prophète et par Dieu. Il n'y a aucun appel après des offenses à une quelconque violence à l'égard de ceux qui commettent des offenses à l'égard de Dieu et du prophète. Je pense qu'il faut soutenir les enseignants, c'est pas parce que ils enseignent nos enfants. Encore faudrait-il que nos enseignants soient armés, pédagogiquement parlant, pour pouvoir faire face à cette crispation que nous trouvons chez nos jeunes aujourd'hui.
Et comment avez-vous accueilli la réponse de l'État suite à ce drame?
Ben écoutez, déjà après ce drame-là, le gouvernement a proposé une loi du séparatisme. C'est une très bonne chose, c'est nécessaire, mais je pense que c'est pas du tout suffisant, parce que le mal est très profond, le malaise est très profond. Je pense que nous sommes dans un moment de changement de civilisation qui est mal vécu par tout le monde. Tout le monde est inscrit dans une incertitude qui crée une inquiétude. Il y a une crispation qui se développe un peu partout, et donc il faut y remédier par un discours d'apaisement.
Vous évoquez un changement de civilisation. Qu'entendez-vous par cela?
Nous sommes dans des sociétés mondes et que le virtuel a transformé complètement notre rapport au réel. Donc les frontières deviennent de plus en plus poreuses en matière de culture, de civilisation. La question de l'immigration est aussi un vrai problème. Comment accueillir des gens et puis par la suite leur permettre une bonne intégration? Donc le débat actuel sur l'immigration est un débat pertinent. Par contre, il faut des réponses à la hauteur de la question pertinente, c'est-à-dire comment permettre à des flux migratoires d'être bien coordonnés, bien modérés, bien intégrés, etc. etc. Donc oui, et j'espère que le débat concernant l'élection présidentielle, j'espère que le débat autour de ces questions-là apporte des solutions intelligentes au lieu de cliver davantage la société.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, des imams, des membres d'associations musulmanes et des représentants du culte musulman en France se sont rendus devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty. Ils ont déposé ce vendredi une gerbe de fleurs, parmi eux le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Chemseddine Hafiz. Un lourd bilan après un attentat aujourd'hui en Afghanistan. Des explosions ont frappé une mosquée chiite de la ville de Kandahar. Il y a au moins 33 morts et 73 blessés. Une attaque une semaine après un attentat suicide contre une mosquée chiite de Kunduz, revendiquée par l'organisation État islamique et qui a fait plusieurs dizaines de victimes. Le bilan s'est alourdi au lendemain des affrontements à Beyrouth. Il y a 7 morts et une trentaine de blessés. Bilan de tir dans une manifestation contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth, l'explosion du 4 août 2020. Une manifestation organisée par les mouvements Hezbollah et Hamal. Elle s'est produite après que la Cour de cassation a rejeté des plaintes de députés et ex-ministres à l'encontre de Tarek Bitar, lui permettant de reprendre ses investigations. Ce vendredi a été décrété jour de deuil national. À l'étranger, la France a appelé à l'apaisement, les États-Unis à la désescalade. Le porte-parole de l'ONU appelle à cesser les actes provocateurs et plaide pour une enquête impartiale sur l'explosion au port de la capitale. Des réactions politiques après la nomination d'un nouveau gouvernement lundi en Tunisie. Gouvernement dirigé par Najla Boudène Ramdan. Il compte 25 membres, dont 9 femmes, en plus de la première ministre, entretien avec le docteur Khalil Zaouya, ex-ministre président d'État catholique.
Le fait de nommer un chef de gouvernement, un premier ministre, femme, c'est une bonne chose, c'est un bon signal, et qu'on ait un gouvernement où il y a, je crois, 9 femmes au rang de ministre, dont une femme ministre de la Justice. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Ça, c'est très important pour l'histoire de la Tunisie, pour notre itinéraire, pour la place de la femme dans un pays de la rive sud arabo-musulman. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est aussi important, c'est que d'abord, c'est un gouvernement qui est issu de mesures exceptionnelles en dehors de la légalité constitutionnelle, et ça pose un problème. Deuxième élément, c'est que c'est un gouvernement qui est présidé par le chef de l'État. D'ailleurs, lors de la présentation du gouvernement et de la prestation du serment, la première ministre a pris la parole pendant quelques minutes et le président de la République a fait un discours de 35 minutes. Donc, en fait, c'est lui le chef du gouvernement. Elle va être une coordinatrice, ou on revient à la formule de premier ministre. Deuxièmement, on ne sait pas combien va durer ce gouvernement avec ses mesures exceptionnelles. Et donc, il n'y a pas de visibilité politique à court terme ou à moyen terme. Troisièmement, on n'a pas entendu un programme ou écouté un programme. Il n'y a pas eu de présentation d'un programme. C'est juste, comme d'habitude, des objectifs un peu flous que tous les gouvernements dans le monde disent, lutter contre la corruption, contre la mauvaise gestion, contre pour la bonne gouvernance, améliorer le niveau de vie des citoyens. C'est des termes généraux et génériques.
Mais est-ce un premier pas vers un retour à la normale en Tunisie?
Non, ce n'est pas un premier pas, parce que ce gouvernement n'a pas été adoubé par le Parlement, donc la situation institutionnelle reste là où elle était. Et bon, les Tunisiens en général ont bien accueilli ce gouvernement, comme tous les autres gouvernements qui ont toujours été bien accueillis. Hein. Le gouvernement de Meschichi a été très bien accueilli et par la suite on a vu ce que ça a donné. Et puis c'est un gouvernement qui est dominé par des cadres de l'administration, en quasi-exclusivité des cadres de l'administration. Or, ça, on l'a déjà fait et ça a échoué, sans qu'il y ait de vraie politique au sein de ce gouvernement. Il n'y a aucun politique. Donc le politique, ça va être le chef de l'État. Alors, en matière de gestion du gouvernement et de gestion de l'État, ce n'est pas merveilleux.
Le docteur Khalil Zaouia, ex-ministre président d'État catholique. La nouvelle ministre marocaine de la Santé, Nabila Armili, renonce à cette mission. Elle choisit de se consacrer à la mégapole de Casablanca, dont elle vient d'être élue maire. Nabila Armili a été remplacée par Khalid Ait Taleb, qui était déjà ministre de la Santé et de la Protection sociale dans le précédent gouvernement. En France, Anne Hidalgo a été investie par les militants du Parti socialiste français. Candidate à l'élection présidentielle de 2022, la maire de Paris a obtenu plus de 72% des voix face à son seul rival, le maire du Mans et ancien ministre Stéphane Le Foll. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Barbara Gomez, porte-parole du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.